France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est un musicien baroque qui aime plus que tout le mélange des arts. Vincent Dumestre est de retour à Versailles. Dans quelques jours, il va diriger les Vêpres célèbres de Monteverdi, mais dans une version peu connue, celle de la toute fin du compositeur. C'est une œuvre que le chef a aussi donnée récemment en Pologne, à Cracovie, où il a pris les rênes d'un grand festival baroque, alors que sa version au disque d'Armide de Lully sort dans quelques semaines. Vincent Dumestre nous rend visite ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Je le disais à Rodolphe, à votre place, hier, il y avait un autre grand chef baroque, d'une autre génération, c'est Ton Koopman. Lui, il a consacré sa vie essentiellement à la musique allemande, à Bach, à Buxtehude, et bien sûr quelques autres. Et je me disais, vous, la musique baroque allemande, elle a jusque-là été absente, soit presque, soit totalement, de votre parcours avec le poème harmonique. Est-ce que c'est par goût, ou est-ce que c'est parce que vous préférez creuser un sillon, que vous occupez un créneau, entre guillemets, celui de la musique française et aussi italienne?
En fait, ça fait très longtemps que j'ai envie de diriger Bach, et très longtemps aussi que je l'aime, et que je me suis laissé le temps d'approfondir d'autres choses. Le cœur de mon répertoire, c'est le XVIIe siècle. D'abord français, italien, et la vie est longue. Donc
c'est quelque part dans votre tête.
C'est bien sûr quelque chose que je veux faire. Et ça, d'ailleurs, l'année prochaine, puisqu'on va enregistrer pour notre premier Bach, qui sera le Magnificat. Voilà, que j'aime depuis que j'ai 14 ans, que je l'écoute dans le salon de chez mes parents. Enfin, il y a quelque chose qui est très fort avec cette œuvre que j'avais vraiment envie de faire. Il y en a d'autres, mais j'ai des collègues qui font ça magnifiquement, donc déjà il n'y a pas d'urgence, alors qu'il y a des œuvres qui ont besoin d'être connues par le public et qui n'existent pas encore, qui sont encore dans les bibliothèques, qui dorment. Il y en a d'autres qui sont à retravailler parce qu'on les a données il y a 20, 30, 50 ans. Voilà, et sur Bach, c'est vrai, comme vous le disiez, il y a pléthore de magnifiques chefs et de propositions extraordinaires.
Ça fait peur, Bach, ou pas plus que Monteverdi?
Non, ça fait pas peur. Simplement, encore une fois, il faut du temps pour vraiment approfondir une époque, approfondir un style. J'ai l'impression de maintenant avoir un peu compris ce qu'a voulu dire Lully dans son œuvre. Il me semble que je crois que chaque jour je comprends mieux ce que Monteverdi, le rapport entre Monteverdi et l'art sacré, on va dire. Voilà, c'est des exemples. Et voilà. Et donc du coup, l'année prochaine, ça y est, on démarre. Et puis je trouve que, non, quand même, il y a du sublime, évidemment, dans Bach. Et on, comme vous le dites, effectivement, on le prend avec une certaine distance, beaucoup de respect, de la crainte, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est important aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de disques, beaucoup de propositions. Il est important de faire ce qui est absolument nécessaire, ce qui est absolument nécessaire pour le public et aussi nécessaire pour soi-même. Donc voilà, il faut viser exactement là où on pense qu'on a quelque chose à dire, tout simplement.
Vous avez quelque chose à dire sur Monteverdi, les Vêpres, mais pas tout à fait, en tout cas pas celle qu'on a l'habitude d'entendre. On écoute, on en parle après.
Thank you.
extrait des Vêpres, l'introït, les Vêpres de Monteverdi, le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre, en concert dimanche à la chapelle royale de Versailles. Alors là, c'est pas un disque, le disque va venir bientôt. C'est quoi d'abord cette acoustique, cette très belle réverbération qu'on vient d'entendre.
C'est la basilique Sainte-Marie, qui est une église de style gothique et ensuite qui a évolué, qui est un endroit absolument fascinant à Cracovie, sur la place du marché, qui est cette place historique et qui est un lieu incroyable pour plein de raisons, notamment parce qu'elle possède le plus beau retable en bois d'Europe, qui est un retable de 13 mètres. Et en fait, au départ, on m'avait fait cette proposition de faire un concert devant le retable, qui vient d'être restauré, qui a toute une histoire, je vous passe les détails, mais qui a une histoire extraordinaire, qui a été volée par les Allemands pendant la guerre, qui a été ensuite retrouvée, reconstituée, restaurée il y a 2 ans. Et j'avais envie de restaurer une œuvre devant l'œuvre qui a été restaurée. C'est pour ça que j'ai creusé cette envie que j'avais depuis très longtemps d'aller voir ce que Monteverdi a fait de Vêpres en général. On dit les Vêpres, en fait, c'est pas les Vêpres, il y a plein de Vêpres
des
de Monteverdi.
Vêpres. Il y a autant de Vêpres qu'il y a eu d'exécutions à l'époque.
Il se trouve qu'on oublie que c'est l'imprimerie qui décide les choses pour la postérité, finalement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît comme Vêpres de Monteverdi ? Celle que le hasard, la chance a fait imprimer en 1610, et on appelle ça les Vêpres de Monteverdi, en fait. Les Vêpres de Monteverdi, ce sont toutes celles qu'il a composées, jouées, arrangées, transformées, tout au long de sa vie, et elle a été longue. Et malheureusement, effectivement, on a très peu de traces de cela. Et donc, en gros, il y a 2 traces. Et effectivement, ses premières Vêpres en 1610 à Mantoue. Et puis, des Vêpres qu'il a laissées à travers l'œuvre qui est son testament musical, qui est la Selva Morale, dans laquelle il laisse les psaumes qui constituent le squelette des Vêpres. Et donc, on a reconstitué à partir de ces psaumes et de ce squelette des Vêpres à la Vierge, notamment en utilisant le pianto de la Madonna comme motet. Et c'est une manière de refabriquer ce que Monteverdi faisait quotidiennement, en fait. Et encore une fois, voilà, ce qu'on appelle les Vêpres, c'est tout simplement une image photographique, un instantané de 1610, de ce qu'a pu être ce moment liturgique ou paraliturgique dans l'histoire de Monteverdi. Il y en a eu plein d'autres, et là, on ne les connaît pas, mais c'est pareil pour les opéras. Tous les opéras qu'on a perdus, de Monteverdi, tous les opéras italiens, vénitiens, qu'on n'a plus, il nous reste des traces de cette musique qu'on adore.
Comment on recrée, comment on reconstitue ça?
D'abord, avec une grande humilité par rapport à la composition d'un Monteverdi, en essayant de comprendre comment lui fonctionnait, tout simplement, donc en se mettant à sa place. Encore une fois, les Vêpres, c'est très simple. Vous avez donc les psaumes, et entre les psaumes, si le musicien avait du temps, de l'argent, des musiciens autour de lui dans sa chapelle, eh bien, il les invitait à faire soit des œuvres assez importantes, des motets à plusieurs voix, ou des motets à une voix avec basse continue et violon. Et s'il avait un petit peu moins d'argent, il mettait une pièce instrumentale, il mettait une pièce d'orgue, ou bien rien, un plein chant. Et voilà, et en fait, il y avait le squelette, les 5 ou 6 psaumes, l'introït au début, que vous avez entendu, et puis, entre, on recomposait, ou on adaptait, on mettait des pièces. Donc on a fait le travail qu'a pu faire Monteverdi pour ses Vêpres de 1610, et qu'il a probablement fait toute sa vie jusqu'à 1643, à Venise. Simplement, les psaumes ne sont pas les mêmes que dans les Vêpres de 1610. Donc ce ne sont pas une relecture des Vêpres de 1610, encore une fois, ce sont d'autres Vêpres de Monteverdi.
Celles-ci sont une sorte de testament musical, on peut en parler.
Alors c'est difficile. Oui, on peut dire ça puisqu'on dit que la Selva Morale, c'est son testament musical. Et là, on n'a pas tort, parce qu'en fait, il a vraisemblablement, un an avant sa mort, voulu répertorier, faire une sorte de base de données, on dirait aujourd'hui, de son œuvre. Il n'y a pas tout, d'ailleurs, il le dit lui-même, et il dit d'ailleurs quelque chose de très beau, il dit dans la préface, je ne suis pas encore tout à fait satisfait, c'est pas tout à fait exactement encore ce que je peux faire de mieux, mais voilà. Donc c'est cette sorte d'humilité qu'il y a toujours dans les préfaces des grands musiciens. Et c'est donc un testament dans le sens où ce n'est pas une œuvre, les Selva Morale. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas d'intérêt pour moi à enregistrer les Selva Morale. C'est une édition dans laquelle lui et ses contemporains piochaient pour le quotidien liturgique de leur existence.
à découvrir dimanche à la Chapelle Royale de Versailles. On retourne à Cracovie pour un autre extrait de cet enregistrement que vous nous avez fourni. Là, dans ces vêpres, Vincent Dumestre, on est à quel moment ?
Alors ça, c'est un Stabat Virgo Maria, c'est un motet. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un motet de Monteverdi, c'est bien lui qui l'a composé, mais c'est pas lui qui en a écrit le texte. C'est un, comme ça se pratiquait très souvent à l'époque, c'est un pastiche. C'est-à-dire que c'est Aquilino Coppini, un collègue et aussi un ami de Monteverdi, qui s'était permis, avec son autorisation de Monteverdi, de transformer les pièces profanes de Monteverdi en pièces liturgiques. Encore une fois, l'Église en avait besoin, le culte avait besoin d'œuvres, et d'œuvres consistantes et puissantes comme celle de Monteverdi.
Autre extrait de ses vêpres de Monteverdi, Stabat Virgo, le poème harmonique dirigé par notre invité ce matin, Vincent Dumestre, concert dimanche à Versailles à la Chapelle Royale, un disque qui arrivera dans quelques mois, j'imagine.
Je pense aussi.
Et cet enregistrement, donc, vous le disiez, en Pologne, à Cracovie, mais on n'a pas dit ce que vous faisiez en Pologne, à Cracovie.
Ah oui, alors la ville de Cracovie m'a proposé la direction artistique du festival Mystère Pascalia. Un très beau festival dans lequel je joue depuis une quinzaine d'années, depuis 2007, très régulièrement, dans lequel j'avais une carte blanche en fait en 2017, qui a été un moment très fort et que le public a beaucoup apprécié. Et voilà, et donc après le Covid, je pense que la direction de ce festival a un peu réfléchi à comment faire redémarrer un petit peu la chose, et m'a proposé d'en prendre la direction artistique, ce qui est un grand plaisir, un grand honneur, une grande joie.
À quoi elle ressemble, cette ville, pour ceux qui ne la connaissent pas.
Bah, c'est ça qui m'a intéressé, ça qui m'a passionné, c'est que en fait c'est une ville avec un patrimoine vraiment extraordinaire. Je trouve que c'est vraiment des plus belles villes d'Europe, alors que c'est pas la plus connue ou la plus visitée. Je pense à Prague ou à Budapest. Et c'est une ville qui a un patrimoine absolument incroyable sur un demi-millénaire, et avec notamment un patrimoine baroque extraordinaire, avec le musée Wawel qui est un peu l'équivalent de notre Louvre, le Czartoryski qui est un musée extraordinaire avec des Da Vinci, avec évidemment une profusion d'églises. Je crois toujours en faire le tour, et en fait à chaque fois que j'y retourne, j'en découvre de nouvelles. Donc ça c'est extraordinaire, d'autant que ce festival qui est organisé par la ville, et donc les portes me sont ouvertes pour justement des collaborations avec des institutions très importantes, et qui me permet de faire sortir la musique du cadre traditionnel du concert. On a des très belles salles évidemment qu'on utilise, hein, l'AIS par exemple, qui est une sorte de philharmonie, mais on peut entrer et proposer au public des choses extraordinaires. J'ai fait par exemple un concert devant le tableau de la jeune fille à l'hermine de Da Vinci pour une quinzaine de personnes, et puis à l'AIS on est avec 2000 personnes dans la salle. C'est vraiment très, très excitant, très intéressant de pouvoir investir une ville finalement avec la musique baroque.
Que ça crée ?
Alors, que ça crée, effectivement, parce que c'est la trame, parce que c'est l'histoire, mais j'ai un peu fait évoluer le festival avec un in et un off. Donc le in, c'est les grands concerts traditionnels, les grands concerts de musique sacrée, c'est des dormitions, des concerts aussi de petite forme, mais toujours liturgiques ou paraliturgiques. Et puis, dans le off, c'est une autre manière pour le public de rencontrer les artistes, de découvrir. Là, cette année, j'ai fait les Keyboards Day, c'est-à-dire des rencontres autour du clavecin. En Pologne, il y a énormément de clavecinistes, mais en fait, il y a très peu d'instruments, il n'y a pas de facteur. En fait, c'est incroyable. Pas de facteur de clavier en Pologne. Donc Jean-Luc O est venu avec sa collection d'instruments, François Rayland et des facteurs d'Europe sont venus présenter dans un palais qui est un palais incroyable qui appartient au festival, le palais Potocki, tous ces instruments. Donc on a fait vraiment une espèce de folle journée du clavier avec des concerts, des masterclass, des workshops, des récitals évidemment. Il y a eu Pierre Antaille, Justin Taylor, etc.
À Cracovie, donc prochaine édition, l'année prochaine, j'imagine.
Surprise.
Vincent Dumestre, je le disais en introduction, vous aimez mélanger les arts. Il y a eu ce carnaval baroque qui est repris, qui a un certain nombre d'années maintenant. Sur Monteverdi, les Vêpres, c'est quelque chose qui est possible pour vous de faire du théâtre, ou le théâtre est déjà dans la musique sacrée ici?
Je pense qu'on vit à une époque où justement, d'ailleurs c'était un peu pareil au XVIIe siècle, où le théâtre est dans la musique. Il n'est pas seulement dans l'écriture musicale, il est dans le moment musical. Et c'est ça qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on a envie que le public, quand il vient dans une salle, il s'assoit, il vit une expérience, une immersion, tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai, c'est une véritable expérience. Et ben, j'ai vu des gens pleurer à ce concert des Vêpres, c'était extraordinaire. C'est pas seulement la force de la musique, là en l'occurrence, c'est qu'on a travaillé sur les lumières, sur ce retable extraordinaire qui s'est ouvert au moment du Pianto de la Madonna. Enfin, tout ça veut dire quoi? Tout ça veut dire que il faut réunir tout ce qu'on a de matière théâtrale dans les concerts. Et finalement, c'est quelque chose qui est complètement baroque. À l'époque, la musique n'était pas distincte des arts théâtraux. La danse faisait partie, et tout était théâtre dans le moment. Dans le moment de musique. Donc oui, parce que dans ces Vêpres, il y a possibilité de travailler sur les déplacements, sur l'espace sonore, sur le type d'acoustique du lieu. Et ça, c'est une chose que je vais faire, comment dire, travailler petit à petit dans ce programme que j'ai très envie de jouer dans les années qui viennent.
Et on va au théâtre, à l'opéra, avec ce disque qui sort dans quelques semaines. C'est Armide, c'est Lully, c'est pas un air sacré, mais c'est un sacré air. Come on, 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 come on à la fin de l'acte 2. Enfin, il est en ma puissance, chante Armide, c'est Lully, c'est la voix de Stéphanie Toustrac, le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre. Ça paraît dans quelques semaines chez Château de Versailles Spectacle. Vous sortez beaucoup de disques. C'est un disque de plus ou c'est un disque très important pour vous, celui-ci?
En fait, on sort pas beaucoup de disques. Il se trouve qu'on en enregistre là, en ce moment. Il y en a un qui sort, d'ailleurs, c'est un peu pour ça.
Il y en a deux, trois par an.
Il y a toujours un disque, en général, un disque ou deux, effectivement, par année. Il se trouve qu'on est c'est un orchestre, le poème harmonique, mais c'est aussi des musiciens qui font de la musique de chambre. Donc, les répertoires sont assez variés entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et il y a beaucoup de choses à proposer, mais voilà, cette Armide a été, organisée, préparé, joué, travaillé à l'Opéra de Dijon et ensuite on l'a enregistré à Versailles.
On parlait de Bach tout à l'heure, attendre avant de faire Bach, vous avez attendu avant de faire Armide?
Oui, mais parce que là, il y avait une sorte de triptyque que je trouvais vraiment intéressant, qui est début, milieu et fin des 12 ou 13 années où Lully et Quinault ont travaillé ensemble. C'est un moment très important dans l'histoire de la culture française musicale. C'est la naissance de la tragédie lyrique. Et donc, ces trois moments un petit peu assez symptomatiques entre le début de cette tragédie lyrique où Lully et Quinault ont tous les ingrédients, mais les cousent pas forcément encore de manière très très fluide, avec Phaéton au milieu, et on termine par Armide, qui est la dernière des tragédies lyriques, peut-être on le dit ici, la plus aboutie, la plus puissante aussi sur le plan psychologique. C'est ça qui est vraiment intéressant avec ce personnage d'Armide, amoureuse de Renaud et qui le hait, qui l'aime, cette haine d'elle-même. C'est quelque chose de très très fort et très moderne finalement sur le plan psychologique. Et donc ça m'a intéressé effectivement d'avoir trois étapes. Il aurait pu en avoir d'autres d'ailleurs, mais c'est vraiment trois étapes dans la grande histoire de la tragédie lyrique.
Le chef-d'œuvre absolu pour vous dans ce répertoire-là?
Ah bah oui, c'est pas pour moi, c'est ce qu'on dit. C'est la dernière, il y a vraiment quelque chose de tellement abouti. Et puis aussi, c'est la fin de l'histoire. Le roi n'est pas venu quand même il n'est pas venu voir Armide. Lully était en disgrâce et c'est la fin de sa vie, c'est la fin de sa carrière aussi.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Vincent Dumestre est notre invité, un disque Armide qui paraît dans quelques semaines sur le label Château de Versailles Spectacle. Versailles à l'Opéra, dimanche pour ses autres Vêpres de Monteverdi. Il y a autant de Vêpres, donc on a compris qu'il n'y a pas ces Vêpres qu'on entend souvent et qui sont souvent enregistrées. D'autres Vêpres à découvrir dimanche. Et puis le Carnaval baroque aussi qui continue sa tournée et qui passera par Caen, une ville où vous êtes bien installé. C'est l'heure d'ouvrir notre diaporama sonore. On va écouter des musiques et vous allez nous dire ce qu'elles vous évoquent. Première musique.
Wondrous machine.
Le plus grand compositeur pour moi, le plus grand de toute l'époque baroque en tout cas, c'est Purcell. C'est celui qui est en très peu de temps, parce qu'il est mort à 36 ans, qui a composé plus de 800 pièces dans tous les styles, qui a synthétisé tout ce qu'on peut imaginer dans la musique baroque, et son Hey Bride Cecilia, qui est une œuvre fascinante, qui est une œuvre extraordinaire et dont on entend le Wondrous Machine avec Thomas Krall, que nous avons enregistré il y a quelques semaines.
Deuxième musique, on remonte un peu le temps.
Ça, c'est la messe à cinq voix de William Byrd, qui est un... Alors, vive la musique anglaise.
Décidément.
qui est une œuvre que j'adore depuis tout petit, en fait, que j'écoute, dont j'écoutais cette version, effectivement, quand j'étais adolescent. Et voilà, un chef-d'œuvre de perfection dans la simplicité, parce que c'est cinq voix a cappella. Et il a très belle interprétation des Thalys.
Quand vous étiez petit, vous dirigiez des chanteurs imaginaires en écoutant cette musique ?
Ah non, pas du tout. Alors là, vraiment pas. Non. J'adorais cette musique. Je parle de mon enfance, mais mon adolescence. Et j'étais plutôt à gratter ma guitare en même temps. En fait, c'était deux. Voilà.
La guitare arrive. Mais d'abord, une chanson.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, aux musettes. Mais quand un gars m'a pris un baiser, j'ai frissonné, j'étais cipée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras.
Et qu'est-ce que l'on entend, Vincent Dumès?
Bah, c'est nous, c'est cette Stéphanie Doustrac extraordinaire avec ses chansons du début du XXe siècle, qui m'intéresse vraiment particulièrement parce que elles sont à la fois le reflet de cette génération de musiciens qui vont créer ce qu'on appelle la chanson française, avec plus tard les Édith Piaf, etc. Et puis, en même temps, c'est le début de la musique ancienne. C'est le début de la renaissance de la musique ancienne et du renouveau des instruments. C'est là qu'on refait les premiers luths, par exemple, les premières violes de gambe.
Là, c'est vous au luth, au théorbe ?
Là, c'est moi au théorbe, effectivement. Ouais.
Ouais. Allez, Mon amant de Saint-Jean, sorti l'an dernier. On se quitte avec ça que vous avez choisi pour nous.
C'est Yamandou Costa, qui est un guitariste justement extraordinaire de nouvelle génération, un guitariste brésilien, et qui faut le voir sur scène parce qu'il c'est un orchestre à lui tout seul dans sa manière de jouer, d'interpréter ses œuvres, et un hommage à Le Grand qu'on entend là.
Vincent Dumestre, notre invité ce matin, le poème harmonique sur les routes à Versailles, dimanche, disque Armide, qui viendra très bientôt. Notre voix mystère, il y a une heure, était...
J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile. C'est peut-être étrange de parler d'utilité, mais il me semble que écrire, ça n'est pas un plaisir solitaire, quoi.
C'était la voix d'Annie Ernaux, c'était pas facile, bravo à nos gagnantes, à nos gagnants. Bonjour Émilie, bonjour, rebonjour Rodolphe.
Rebonjour.
Bonjour Jean-Baptiste, on va aller du côté de la carrière, et même du tout début de carrière d'un violoniste qu'on aime bien dans cette émission qui s'appelle Tobias Feldman.
À tout
on revient sur son premier disque.
À réécouter sur francemusique.fr.